Bonsoir à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture, un peu en avance aujourd'hui. Ce soir, en fin d'émission, nous parlerons de recherche-développement en éducation avec le chercheur François Taddeï, en charge d'une mission consacrée à l'innovation pédagogique pour le ministère de l'Éducation nationale. Et puis le dossier de Rue des Écoles, les diplômes universitaires seraient-ils dévalués ? Je salue mes invités Séverine Chauvel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous publiez Course au diplôme, qui sont les perdants. Lila Lebas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente, c'est tout nouveau, de l'UNEF, le syndicat majoritaire des étudiants en France. Avec nous également aujourd'hui Olivier Beau, professeur de droit constitutionnel et président de l'association Qualité de la science française. Et nous commençons tout de suite avec l'actualité de l'éducation, les actualités de l'éducation, avec Marie-Caroline Missir, directrice de la rédaction de l'étudiant, partenaire de Rue des Écoles. Et Marie-Caroline, l'événement de la semaine tient en quelques lettres, CNESCO.
C'est-à-dire le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Un acronyme qui pèse très lourd désormais avec la publication cette semaine d'un rapport très controversé sur les inégalités à l'école. Ce rapport rassemble les résultats de 2 ans de recherche menée par des sociologues, des économistes, des experts de la didactique en France mais aussi à l'étranger. Et ces résultats vous glacent. Oui, la France est un pays profondément inégalitaire. L'enquête PISA, dont la prochaine mouture sortira en décembre, la scène tous les 3 ans. Oui, le système éducatif français excelle à former des élites, mais échoue à éduquer les plus pauvres. À force d'être répétées, ces affirmations sont devenues des axiomes que l'on retrouve dans chacun de nos papiers, des prérequis à tous les discours sur l'éducation. Mais il y a plus révoltant, Louise. Les politiques éducatives menées depuis les années 80 pour inverser la donne sont non seulement coûteuses, mais n'ont fait qu'aggraver la situation.
C'est peut-être ce qui explique l'extraordinaire couverture médiatique dont a bénéficié ce rapport. Un rapport qui insiste sur un point particulier, l'éducation prioritaire.
Les différents plans de relance, en effet les dispositifs de soutien ou d'aide personnalisée qui caractérisent ces plans, se sont succédés depuis 30 ans. Mais n'ont pas agi sur le cœur du réacteur, c'est-à-dire la pédagogie, la personnalisation, l'adaptation des apprentissages. Ils ont agi comme des pansements périphériques pour ce qui aurait nécessité en réalité une opération à cœur ouvert.
On écoute Nathalie Mons, la présidente du CNESCO, que nous avons rencontrée ce jeudi au CNESCO.
Le rapport montre clairement, en ce qui concerne l'éducation prioritaire, qu'il s'agit en fait d'une politique éducative qui ne conduit pas à une discrimination positive des élèves, mais au contraire à une discrimination négative. Et ceci, je crois que c'est la première fois qu'on le montre, en ce sens où nous avons vraiment souhaité regarder quels sont les critères importants pour les apprentissages des élèves. On sait que le temps d'enseignement compte, on sait que l'expérience des enseignants est très importante, on sait que la qualité des pédagogies, notamment celles qui permettent d'apprendre à apprendre, sont centrales pour les élèves. Les élèves qui sont socialement défavorisés sont dans un cadre pédagogique qui n'est pas porteur. Les cours sont plus courts en éducation prioritaire. Les méthodes pédagogiques les plus complexes n'y sont pas développées parce que les enseignants ont des difficultés. Ils sont face en fait à des classes qui réunissent quasiment exclusivement des élèves en grande difficulté scolaire et sociale. Et donc c'est très difficile de mettre en place les pédagogies qui vont être les plus efficaces. Il y a aussi des problèmes d'incivilité majeurs. On sait tous les effets délétères de la ségrégation. Donc on peut dire que à la fois les enfants et les personnels enseignants qui travaillent dans l'éducation prioritaire subissent aujourd'hui une forme de discrimination négative. Le rapport analyse les politiques scolaires. C'est-à-dire que évidemment, il ne montre pas que les enseignants en éducation prioritaire ne font pas bien le job. Au contraire, il montre que ils sont dans ces établissements dans un cadre de politique scolaire qui n'est pas du tout porteur pour eux. Il décrit au contraire pour ces personnels des situations de discrimination négative.
Voilà, Nathalie Mons, qui est aux commandes du Conseil national d'évaluation du système scolaire, qui revient également donc sur ces critiques dont vous avez parlé, Marie-Caroline. Mais retenons aussi l'idée de l'intérêt de la recherche en éducation.
Il y a de quoi être en colère à la lecture de ce rapport, car les recherches sur l'éducation prioritaire ne manquent pas. Citons simplement le remarquable travail de la sociologue Agnès Van Zanten, qui était à Rue des Écoles il y a quelques semaines. En revanche, que l'action publique fasse l'objet d'une évaluation scientifique indépendante et que cette évaluation soit mise au cœur du débat sur l'école est neuf. Peut-être aurait-il fallu évaluer ces politiques d'éducation prioritaire avant de les reconduire ou de les enterrer à l'aveugle. Peut-être que désormais, la recherche a son mot à dire sur les politiques publiques. Et c'est, je crois, la grande avancée de ce travail. Et c'est un enjeu politique et citoyen.
Il est central dans le cadre d'une élection présidentielle et dans le cadre d'une campagne présidentielle, évidemment, que le citoyen soit éclairé. C'est-à-dire que est-ce que les propositions des candidats sont valables d'un point de vue scientifique? C'est-à-dire que est-ce qu'on nous propose des solutions politiques qui vont permettre d'améliorer le système ou qui vont entraîner une dégradation manifeste du système? Par exemple, quand on voit qu'un certain nombre de candidats proposent de refiliariser le collège unique, c'est-à-dire de remettre des paliers d'orientation à partir de la cinquième, par exemple, et ben ceci est totalement contradictoire avec les résultats de la recherche, puisque la recherche nous montre que plus le temps du collège unique est long, moins il y a d'inégalités dans une société. Donc il est clair que le citoyen doit être informé des résultats de la recherche, il doit être aussi informé des résultats du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une reddition des comptes nécessaire dans le cadre d'un bilan en fin de quinquennat. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de politiques qui sont affichées et le citoyen doit savoir si ces politiques ont réellement été mises en œuvre. Ça fait défaut en France, il y a très peu d'évaluations et je crois que les citoyens doivent revendiquer d'y voir clair sur la réalité des gouvernements, sur la réalité de l'action publique. Parce que souvent, il y a de l'affichage et puis il n'y a pas toujours énormément de vigilance par rapport à la mise en œuvre des politiques qu'on nous a promises.
Bon, le message est clair. On comprend bien en creux, en écoutant Nathalie Mons, que tout en affirmant bien haut son indépendance, la sociologue entend bien s'assurer, en cas d'alternance politique, de la pérennité d'une institution qui a été mise en place par la gauche.
Autre acronyme dans l'actualité de l'éducation cette semaine, Marie-Caroline,
Le CNIR ou le CNIRET, je ne sais pas. Le Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative, une structure qui a été créée par Vincent Peillon et qui est restée en sommeil depuis et que vient de ressusciter Najat Vallaud-Belkacem. Et alléluia, savez-vous qui va présider cet organisme?
Dites-le nous.
Bien, c'est Philippe Poitrelot, ancien président des Cahiers pédagogiques, blogueur infatigable, enseignant en sciences économiques que nous avons déjà invité à Rue des Écoles.
Et dans d'autres émissions de France Culture. Alors, à quoi sert le CNIRET?
Oui, je ne vous l'ai toujours pas dit. Eh bien, justement, à valoriser et encourager l'innovation pédagogique et à faire le lien avec la recherche, justement. Et là, un autre alléluia, puisque l'excellent François Taddeï, universitaire et directeur du CRI, vient de se voir confier une mission pour développer et piloter des politiques de recherche et d'innovation dans notre système éducatif. Ouf ! Mais que de bonnes idées donc pour cette fin de quinquennat ! Que n'y a-t-on songé plus tôt, me direz-vous ?
Et ce que je vous dis, Marie-Caroline, c'est que François Taddeï sera notre invité en fin d'émission pour le Focus. Bon, cette semaine, c'était aussi la présentation du budget de l'éducation nationale. On va parler chiffres.
Et l'éducation nationale a gagné au loto cette année. Le budget de l'enseignement scolaire est augmenté de 3 milliards, celui du supérieur d'un milliard. C'est le ministère le mieux doté cette année, ce qui fait dire à la ministre avec gourmandise que la rentrée 2017 sera une merveilleuse rentrée. Combien pour les profs dans cette manne budgétaire? 814 millions sont réservés à la revalorisation de leur salaire en 2017. 500 millions sont nécessaires pour la revalorisation liée à différents accords professionnels pour la seule année 2017. Mmh. Il y a la revalorisation du point fonction publique, un effort de 350 millions, ça fait beaucoup de chiffres, je concède.
Le million, oui.
Le million, beaucoup de millions, des milliards même. Mais pour les postes, les 60 000 sont atteints avec 11 662 postes pour l'enseignement scolaire, 1000 pour le privé, 1000 pour le supérieur, tout le monde est content. Bref, que du bonus pour les enseignants, ça tombe bien, c'est l'année où l'on vote.
Bon, et quand on vous demande des chiffres, Marie-Caroline, on en a pour son argent. Bon, la présidentielle approche à grands pas, cela ne vous a pas échappé, évidemment.
Non. Les go. Les go. Les go go.
Les Gaulois. Non, c'est pas vrai.
Et il est encore question des Gaulois dans cette page d'actualité. Je ne peux m'empêcher de noter une accélération du tempo de la campagne à chaque sortie de la ministre, qui est visiblement bien décidée à charger l'opposition, vous allez comprendre, avec plus ou moins de bonheur, comme lorsque Najat Vallaud-Belkacem trébuche en voulant corriger Nicolas Sarkozy, qui affirme que nos ancêtres sont des Gaulois. Faut-il faire un cours d'histoire à Monsieur Sarkozy, qui visiblement en a besoin, ironise-t-elle sur iTélé, avant d'affirmer connaître parfaitement les premières phrases de ce livre, Le Tour de France d'Ernest Lavis sous la Troisième République. Autrefois, notre pays s'appelait la Gaule, c'est-elle encore, et les habitants, les Gaulois. Bon, sauf que ce n'est pas Ernest Lavis, mais un certain G. Bruno, et que ce n'est pas le Tour de France, mais le Tour de la France par deux enfants, bon, sans maillot jaune, donc. Bref, allez, on avait compris l'idée, on va passer pour cette fois.
On termine avec la conférence des grandes écoles qui entend bien peser de tout son poids dans la campagne.
La CGE, donc encore un acronyme, a soumis jeudi ses propositions aux candidats aux différentes primaires. On peut retenir la plus forte d'entre elles, faire de l'ouverture sociale une grande cause nationale. La conférence des grandes écoles entend proposer davantage de bourses aux étudiants et même mettre sur pied un programme d'égalité des chances d'un nouveau type.
C'est-à-dire ?
Plutôt que d'ausculter les critères sociaux, il faut regarder le niveau d'éducation des parents, affirme-t-elle. Et comme le rappelle Jean-Michel Blanquer, le directeur général de l'ESSEC, l'ancien numéro 2 du ministère.
L'ESSEC, une école de commerce, hein, on précise tous les acronymes.
Le sujet de l'enseignement supérieur, explique-t-il, paraît élitiste, alors que c'est un sujet clé. C'est l'institution matricielle de la société. Cela peut s'entendre comme un appel aux politiques à s'y intéresser de manière beaucoup plus approfondie.
Et l'enseignement supérieur, c'est le sujet du dossier de Rue des Écoles. 40 000 étudiants plus cette année dans les amphis des facultés et des écoles. 180 000 étudiants de plus qu'il y a 8 ans, soit l'équivalent de 10 universités. Je reprends les chiffres donnés par Marie-Caroline Missire la semaine dernière. Alors, massification ou démocratisation ? Démocratisation ou massification, deux termes qui posent bien notre problématique et l'ambivalence d'un accès plus large aux études supérieures. À savoir, les voies vers la réussite ou ce qui est perçu comme tel y sont encore inégalitaires. Il faut se demander s'il ne s'y rejoue pas les discriminations scolaires que nous connaissons dans tout le système éducatif. Inégalités basées sur la classe sociale, le genre, les origines géographiques et ethniques. De plus, aujourd'hui, dans un marché de l'emploi très concurrentiel, que valent les différents diplômes ? Que signifie vraiment être Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 ? Et enfin, quelles sont les conséquences de la dévaluation de certains de ces diplômes ? Car il faut bien le dire, certains de ces diplômes universitaires sur nos représentations de l'enseignement supérieur et même du savoir. Voilà, on va en parler avec nos invités. Séverine Chauvel, donc je reprécise le titre de votre livre, Course aux diplômes, qui sont les perdants ? Chez Textuel, je précise que vous êtes sociologue et surtout enseignante, hein, maîtresse de conférences, comme on dit aujourd'hui, à l'Université Paris-Est, Créteil, et membre de l'Observatoire universitaire international d'éducation et de prévention. Je ne me suis pas trompée ?
Tout à fait, c'est ça.
Lila Lebas, vous êtes aussi avec nous, je l'ai dit, pour l'UNEF, vous allez commenter un petit peu et nous expliquer les positions de l'UNEF sur cette idée de diplômer la société, diplômer toujours plus d'étudiants, parce que c'est une stratégie qui est pensée depuis longtemps, qu'on appelle par exemple la stratégie de Lisbonne pour une société de la connaissance, avec toujours davantage de jeunes, toujours plus diplômés. Et pourtant, cela fabrique aussi des inégalités. C'est ce que vous avez voulu montrer avec ce livre, Séverine Chauvel.
Oui, alors vous avez raison. Le paradoxe, en fait, est là. Un plus grand accès à l'enseignement supérieur. Et en même temps, cet accès, cette ouverture, il ne profite pas à tout le monde. Il profite aux plus favorisés. Et on se rend compte que ce qui compte, c'est pas seulement le diplôme. Hein. Le diplôme protège sur le marché de l'emploi, mais il n'est pas suffisant, en fait, puisque c'est les ressources familiales, autrement dit, le réseau aussi, voilà, toutes les ressources financières, en fait, qui vont faire la différence. Parler en niveau de diplôme, bac plus 2, bac plus 3, Bac plus 5 n'est pas non plus suffisant, pertinent, puisqu'en fait, ça dépend vraiment de quel diplôme on parle aussi, puisqu'ils ne sont pas tous équivalents, et il y a certains secteurs qui permettent ou pas de rentrer plus facilement sur le marché du travail.
Et là, la clé, c'est évidemment l'information des familles, l'orientation. On va y revenir. Mais ce qu'on sait et ce qui compte, c'est que le fait de n'être pas diplômé du tout est très grave. C'est un handicap aujourd'hui. On le voit sur les chiffres du chômage, enfin handicap social pour l'insertion dans l'emploi, évidemment. Vous citez Robert Castel, vous dites « En fin de course, les perdants ont beaucoup plus perdu parce qu'il est plus invalidant d'être sans diplômé ou sous-diplômé aujourd'hui. » Robert Castel, sociologue.
Oui, alors le risque, en fait, c'est d'avoir un impératif, avec cet impératif tous diplômés, c'est d'avoir des objectifs quantifiés. Et du coup, il y a un décalage entre ces politiques du chiffre et la réalité du terrain, des promesses non tenues qui font que, finalement...
Quelles promesses ?
En fait, quand on nous dit 60% d'étudiants de licence, c'est l'objectif qui est répété là depuis plusieurs années. Ça donne vraiment l'illusion que, on va décrocher le sésame avec ce diplôme. Mais finalement, il y a un jeu de dupes, puisque derrière ces objectifs quantifiés, on n'interroge pas finalement. La crise économique et les effets de la crise économique sur le marché de l'emploi, et on tend à rendre responsables en fait de leur parcours scolaire et donc éventuellement de leur échec et de leur chômage les étudiants.
Mélila Lebas, vous à l'UNEF, vous plaidez pour un accès plus large au diplôme à l'université. Par exemple, vous êtes contre la sélection en Master 2. Je vous vois sourire, mais c'est un sujet dont nous avons déjà parlé ici avec vous et d'autres fois aussi dans Rue des Écoles. À quoi sert de se diplômer toujours plus dans une société qui n'offre pas de débouchés et dans une université qui peut se présenter comme un miroir aux alouettes pour certains étudiants, peu informés, mal orientés?
Je pense que quand même la question de la qualification des jeunes, la qualification de notre génération aujourd'hui, elle est primordiale et qu'on doit aller dans ce sens-là. Comment on fait justement pour former toute une génération jusqu'au plus haut niveau de qualification? Comment on fait pour justement permettre à des jeunes d'avoir un diplôme qui leur permette de trouver un travail sur le marché de l'emploi? Vous le disiez, aujourd'hui le diplôme c'est la meilleure arme contre le chômage. On voit les différents chiffres entre un jeune non diplômé qui a seulement par exemple un baccalauréat ou un jeune qui a un bac plus 3 ou un bac plus 5, le taux de chômage est considérablement différent. Par contre, je pense que la véritable question aussi, si on parle de justement quel débouché on a quand on est diplômé, c'est quelles conditions on offre aux jeunes sur le marché du travail, comment ils peuvent s'insérer sur le marché du travail. Et c'est ça, je pense, la vraie problématique que l'on a aussi aujourd'hui, c'est que on impose aux jeunes diplômés jusqu'à bac plus 5 un sas de précarité quand ils veulent s'insérer sur le marché du travail, en leur disant maintenant, vous avez fait des études, vous avez galéré pour pouvoir avoir votre diplôme, maintenant, il va falloir galérer pour pouvoir trouver un emploi à la hauteur de vos qualifications. Donc on leur propose des petits boulots, des CDD, alterner chômage et des périodes compliquées où ils sont obligés de prendre des jobs alimentaires pour pouvoir tout simplement vivre pendant qu'ils cherchent un boulot à la hauteur de leurs qualifications. Et ils n'ont pas accès aux minima sociaux quand on a moins de 25 ans. Tout ça, je pense que c'est des vraies problématiques pour pouvoir justement permettre aux jeunes qui sont diplômés de trouver un emploi à la hauteur de leurs qualifications. Et c'est pas de se dire il faut moins de diplômés pour pouvoir occuper ces postes-là, c'est plus comment on leur permet justement de trouver un travail qui correspond à leurs qualifications, à leurs diplômes et tout simplement au savoir qu'ils ont accumulé pendant toutes ces années d'études.
Olivier Beau, vous êtes au téléphone avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Donc je redonne votre titre, en l'occurrence président de l'association Qualité de la science française. Vous êtes aussi professeur de droit constitutionnel. Vous êtes très critique sur cette absence de sélection à l'université, sur cette inflation des diplômes.
Oui, je suis critique comme beaucoup de gens, je ne suis pas le seul. Il se trouve que QSF a été créé par Laurent Schwartz, qui était un grand économiste, et qui en 82 a voulu lutter contre la loi Savary, et qui, donc de gauche, s'est opposé très fortement au ministère en disant que l'absence de sélection condamnait à mort l'université. Vous voyez, ça date de 1982.
Et l'université est toujours vivante.
L'université est vivante, disons qu'elle est moribonde, voilà, si vous voulez des expressions un peu choc. Elle est en train de mourir lentement. Alors le coup de grâce, c'est ce qui va s'annoncer. Là, c'est le projet de loi interdisant la sélection à l'université. Madame Vallaud-Belkacem a dit que la sélection était rétrograde. Et donc, la première remarque qu'il faut faire quand même pour que le public sache un peu de quoi on parle, c'est que pourquoi est-ce qu'on admet une sélection aussi drastique pour tout ce qui est système sélectif, petites écoles, moyennes écoles, grandes écoles, écoles publiques comme Sciences Po, Sciences Po de province, elles sont multipliées. Pourquoi est-ce qu'on a multiplié les classes préparatoires aux grandes écoles en province? Donc, pourquoi est-ce qu'on admet une sélection massive? Il n'y a pas plus sélectif que le système français pour les grandes écoles, moyennes écoles, pour l'IUT et le BTS. Donc maintenant, il faut savoir que les étudiants ne vont pas à l'université, mais vont dans les IUT et BTS. Donc pourquoi, notamment, je pose cette question à l'UNEF, pourquoi l'UNEF accepte ça et pourquoi elle relègue l'université au rang de ce que François Vatin et Alain Caillé et moi, on va rappeler dans le livre, la voiture balai de l'enseignement supérieur. Donc la première question, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on tolère la sélection et on l'encourage pour les prétendues grandes écoles, moyennes écoles, etc. Et pourquoi on l'interdit à l'université? Voilà. Donc ça, c'est déjà la question de base à laquelle, à mon avis, personne n'a la réponse, sauf la réponse très simple, c'est que les élites ont décidé en France qu'elles formaient leurs enfants dans ces grandes écoles, dans ces moyennes écoles, que pour les universités, eh bien, on laissait aller à l'université tous ceux qui ne pouvaient pas aller dans le système sélectif.
Avec un tri social. Vous allez avoir deux réponses, celle de l'UNEF et celle de la sociologue Séverine Chauvel. On commence avec Lila Lebas de l'UNEF, puisque vous avez été très clairement interpellée par Olivier Beau.
Effectivement, moi, je n'ai aucun problème pour réaffirmer aujourd'hui mon opposition à toute forme de sélection, notamment à l'entrée de l'université. Quand on voit un peu ce phénomène-là, c'est qu'effectivement, dès qu'il y a un problème...
Mais les étudiants ne sont pas forcément contre la sélection. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais d'après les enquêtes dont on dispose, en fait, il n'y a pas de majorité contre la sélection. Et beaucoup de bacheliers choisissent des filières sélectives justement pour échapper au milieu non sélectif, j'en prends toujours le même terme, mais c'est le plus clair, de l'université.
Bah, beaucoup de bacheliers aussi décident et font le choix d'aller à l'université. Mmh. C'est une volonté des étudiants de pouvoir aller dans l'enseignement supérieur public, dans le service public d'enseignement supérieur. Et quand on voit qu'il y a encore 32 000 étudiants supplémentaires qui arrivent à l'université aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est seulement par défaut. Je pense qu'il y a une véritable problématique avec des filières justement très sélectives, les grandes écoles, qui sélectionnent les étudiants sur du capital social, qui alimente les inégalités sociales qui existent aujourd'hui et qui décident, font le choix de laisser des étudiants, des jeunes, sur le bord de la route qui, eux, n'auront pas le droit à qualification et aux études dans leurs écoles. Par contre, je pense que c'est pas ça du tout l'ambition et l'enjeu de l'université. C'est très drôle la question de la sélection, puisque dès que l'université est un peu en difficulté, c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène. C'est une solution de facilité. Quand on sait plus quoi faire, on se dit on va sélectionner. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit ambitieux pour cette génération, pour ces jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur, et qu'on leur permette justement d'avoir des bonnes conditions d'études au sein de l'université. Donc ça, c'est aussi une question de moyens que l'on donne au service public d'enseignement supérieur pour accueillir ces nouveaux bacheliers. Quand on voit que la rentrée universitaire est encore sous tension cette année, avec des cours, des conditions d'études qui se dégradent, on est nombreux en amphithéâtre, en TD, etc. Tout ça, c'est des véritables problématiques. Mais par contre, je pense que la solution, ce n'est pas de dire à une partie des jeunes, non, toi, tu n'auras pas le droit à l'ascenseur social, toi, tu devras prendre les escaliers pour pouvoir espérer un jour avoir un diplôme, une qualification et t'insérer correctement sur le marché du travail.
Vous contestez cette idée d'une université dégradée. Aujourd'hui, vous venez de le dire, une université qui est pauvre, les locaux sont parfois largement insuffisants. On sait l'état dans lequel sont certaines universités.
Il y a une véritable problématique de financement de l'enseignement supérieur et notamment des universités. Effectivement, depuis maintenant quelques années, elles s'enfoncent dans la pénurie budgétaire et n'ont pas les moyens d'accueillir l'ensemble des jeunes qui arrivent à la fac. Par contre, je pense que la question de le prendre à l'envers, de se dire du coup on va réduire le nombre d'étudiants pour améliorer les conditions d'études, ce n'est pas du tout la solution. Encore une fois, ça veut dire qu'on va permettre à moins de jeunes de pouvoir se former, alors que c'est un véritable enjeu aussi pour notre société, un enjeu social, démocratique, économique, culturel, de former nos jeunes, notre génération, au plus haut niveau de qualification. On le voit quand un pays se porte mieux, quand il a plus de jeunes qualifiés que l'inverse. Et je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est comment on redonne les moyens à l'université d'accueillir dans de bonnes conditions ces jeunes et pas l'inverse.
Séverine Chauvel, vous avez écouté attentivement Olivier Beau. Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur tout et pourtant certains de vos constats sont les mêmes. Inégalité sociale devant l'accès à la réussite, c'est-à-dire les diplômes les plus payants sur le marché du travail, aux études les plus longues, aux filières sélectives aussi.
Je pense qu'on peut pas réduire le système d'enseignement supérieur français à des écoles sélectives et l'université. En fait, on a c'est assez opaque finalement ce qui se passe. On connaît pas encore très bien, mais il y a des masters qui sont très recherchés de l'enseignement supérieur public. Et du coup, c'est assez simpliste en fait d'opposer les deux comme ça. Alors, je pense que là, il faut questionner la raison d'être des études. En fait, est-ce qu'il s'agit de produire des profits, une rentabilité, ou de former en fait toute une génération, comme le disait Durkheim, sur voilà le projet de l'éducation, à plus de capacités, plus d'autonomie.
Mais ce projet, il s'écroule devant l'incapacité de la société à donner du travail à ces jeunes ou pas ? Ou quand même, pour vous, ça reste valable ?
Alors, je pense qu'effectivement, là, on donne trop de responsabilités, en fait, à l'école, et que ce qu'on doit interroger, c'est au-delà du système éducatif, c'est sur le système économique, et tout ça, ce sont des choix politiques. Finalement, il y a la question de la gestion des flux et de la démographie scolaire qui devrait peut-être effectivement être davantage travaillée avec avec de la recherche et avec des évaluations et essayer de comprendre en fait davantage comment ça fonctionne. Mais après, c'est vraiment, je remets pas en question cette idée d'augmentation du nombre de diplômés. C'est aussi sur qualitativement, qu'est-ce qu'on y fait et quels sont les moyens qu'on donne en fait, pour les conditions d'enseignement, puisque finalement, on voit qu'il y a des différences qui sont très fortes entre les établissements et c'est ça qui compte en fait, c'est ce qui est enseigné et dans quelles conditions.
Olivier Beau, oui. Je suppose que vous avez envie de répondre et j'ajoute un élément. Que proposez-vous ? C'est-à-dire que si on procède à un tri un petit peu plus drastique des étudiants, si on dit qu'on doit finalement arrêter peut-être ce qui serait une course au diplôme, là je reprends les termes de Séverine Chauvel, que propose-t-on aux jeunes qui seraient moins diplômés dans une société où quand on est moins diplômé, on trouve aussi moins facilement un emploi et une place dans la société ?
Alors, d'abord, je constaterai qu'aucune des deux intervenantes n'a répondu à mon objection. L'UNEF continue son discours misérabiliste sur le thème que les étudiants galèrent, etc. Bon, c'est très attractif du point de vue électoral, mais donc ça correspond pas du tout à la réalité. Les étudiants qui travaillent ne galèrent pas, ils travaillent. Il y a ceux qui échouent, ils échouent. Donc, je pense que tout ce discours misérabiliste n'a pas lieu d'être dans un débat un peu rationnel. Le point très important, je pense, c'est qu'on fait jouer à l'université une fonction qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire, comme l'a très bien dit le sociologue François Vatin, on fait jouer à l'université une fonction de sociale, de politique de la jeunesse. L'université, c'est pas ça. C'est pas la politique de la jeunesse, c'est pas accueillir tous les gens qui ne peuvent pas avoir un emploi et les accueillir à l'université. Donc c'est pas ça.
C'est pas seulement les accueillir, c'est les former.
Non mais on peut pas les former, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens, on n'aura jamais les moyens, on peut pas les former parce qu'il y a quand même quelque chose que tout le monde oublie dans ce débat merveilleux sur la démocratisation, c'est le niveau scolaire. On est en train en ce moment d'envoyer des étudiants en première année. On connaît ça par cœur pour ceux qui enseignent en première année. On les envoie, je vais employer une expression un peu triviale, à la boucherie, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas formés. Et non seulement ils ne sont pas formés, mais ils ne sont pas dans des classes préparatoires où ils sont 30 ou 40, ou comme au lycée ou au BTS, où ils sont 30 ou 40, mais ils sont 600 dans des amphis. Comment voulez-vous que des étudiants qui sont sous-formés puissent réussir la première année, alors même qu'ils n'ont pas les requis nécessaires, les prérequis nécessaires? Donc il est évident, ce que nous on propose à QSF depuis le début, ce sont deux choses. La première chose, c'est évidemment une sélection à l'entrée de l'université, que les universités enfin décident, comme dans toutes les nations du monde, de choisir leurs propres étudiants en fonction de leurs résultats scolaires.
Mais vous ne répondez pas, vous non plus, vous ne répondez pas à ma question.
Vous me proposez des solutions, donc c'est ce qu'on appelle des collèges universitaires. Je vous renvoie au livre qu'on avait écrit avec François Vatin et Alain Caillé sur refonder l'université, et on propose comme solution minimale, la seule qui peut encore sauver l'université, c'est d'introduire la sélection en master, en M. Cette solution avait été proposée dans la loi LRU, et dans l'avant-projet, Mme Pécresse l'avait mis dans l'avant-projet, et elle a été supprimée à la suite d'un accord entre M. Julliard de l'UNEF et M. Sarkozy. Il suffit de relire les tracts de Sud à l'époque qui avaient accusé l'UNEF de collaboration. M. Sarkozy avait été aidé par M. Julliard pour le CPU, pour la lutte contre le CPE, contre M. Villepin, et bien M. Julliard est allé demander à M. Sarkozy le retrait de la sélection en master. Donc, c'est ce que j'ai écrit dans un article, la politique universitaire française, elle se
elle est en fait faite par de la base politique, et nous, et j'insiste sur ce point, les universitaires, parce qu'on parle jamais des universitaires, ce sont les dindons de la farce, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont fait 10 ans d'études et qui se retrouvent en première, ou deuxième, ou en troisième année à enseigner à des étudiants à qui ils doivent réapprendre le français. Alors on n'en parle jamais, pourquoi ? Parce que les universitaires, tout le monde s'en fiche. C'est pas comme les étudiants, parce que les étudiants, l'UNEF peut les mettre dans la rue, tandis que les universitaires, personne ne les met dans la rue. Quand on les a mis dans la rue en 2009, il a fallu 4 mois de grève universitaire pour qu'on obtienne une petite modification. Quand les gens du classe supérieure, les professeurs de prépa ont lutté pour obtenir toujours le maintien de leurs heures supplémentaires, ils ont fait grève 3 jours. 3 jours, vous comprenez ? Donc, il faut bien aussi prendre en compte, et j'ajoute sur le statut des universitaires, un des grands sociologues français, M. Chauvel, qui a écrit sur la crise des inégalités, où est-ce qu'il enseigne aujourd'hui ? Il enseigne au Luxembourg. Interrogez-vous sur la fuite des universitaires. L'université de Luxembourg qui a été créée il y a quelques années est remplie des meilleurs universitaires français. Donc, là, il faudrait aussi un peu questionner vos intervenants sur la fuite des universitaires. Qu'est-ce que ça veut dire, français ? Ça veut dire les meilleurs, je ne dis pas les moins bons, mais les meilleurs quittent l'université française dès qu'ils le peuvent. Donc, il faut arrêter de parler de démocratisation, de massification. Il faut parler concrètement quels sont les effets de ces politiques sur le monde universitaire, la situation universitaire. C'est-à-dire qu'on déconnecte ce qui fait le centre de l'université, c'est le lien entre la recherche et l'enseignement. S'il n'y a plus de sélection en master, les universitaires n'auront plus aucun endroit où ils pourront enseigner leur recherche et ils ne seront plus à distinguer des enseignants des collèges.
Alors,
c'est évidemment,
ce sera évidemment l'objet d'une de mes questions. En même temps, il est normal de s'intéresser au sort de milliers, de centaines de milliers d'étudiants, même si, évidemment, les universitaires...
On les trompe, on en fait des frustrés et des aigris parce que la plupart échouent et ils sont condamnés à l'échec parce qu'on n'a pas prévu justement les structures. C'est pour ça que nous on proposait une année de remédiation dans notre livre. Les années de remédiation, c'est-à-dire que les gens, le bac ne vaut plus rien, eh bien il faut créer une année supplémentaire après le bac, une sorte de propédéutique pour remettre à niveau. C'est pas du tout de la sélection sociale de droite que je propose. C'est quelque chose qui est progressif, c'est-à-dire permettre réellement aux étudiants de pouvoir réussir des études, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc qu'on arrête cette hypocrisie lamentable qui produit des sacrifiés qui sont les étudiants, et ce sont pas les discours misérabilistes de l'UNEF qui vont sauver ces étudiants. Les étudiants doivent écouter d'autres personnes beaucoup plus réalistes et beaucoup plus lucides.
L'UNEF vous répond dans un instant.
Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station espacionnée, belle colcose de spationose, bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Belle moto, beau mécano, Spiderman, Superman, belle bécane à arbre à cam, turbochrome d'échappement. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va. Rien ne vaut le pédalo, avec pédale et avec son zoo, qui dévale la vallée, avec sandales et avec ses pieds. Belle péniche, beau canot, belle écluse, bon tirando, beau marin et beau matelot, mais rien ne vaut le vélo. vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va, vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va.
Vous écoutez France Culture, rue des Écoles, par Louise Touré.
Voilà, cet enfant n'a pas vraiment l'âge d'aller à l'université, c'est notre sujet aujourd'hui. On a un peu repris notre souffle avec Dick Hanegaard à 17h34 sur France Culture. Nous reprenons le débat, la course aux diplômes, qui sont les perdants. C'est le titre du livre de Séverine Chauvel, notre invitée. Avec nous également Lila Lebas de l'UNEF, très critiquée par Olivier Beau de l'association Qualité de la Science française. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse divergence de point de vue sur la sélection à l'université, on l'a bien compris. Il y a une question que je voudrais tout de même creuser, celle de la pédagogie. Olivier Beau a parlé d'étudiants qui arrivaient finalement assez peu préparés au monde universitaire, qui n'avaient pas forcément un niveau suffisant en sortant du lycée. Comment l'université peut-elle prendre en charge ces nouveaux publics? Sait-elle le faire? Et n'a-t-elle pas oublié de savoir le faire pour les emmener vers plus de diplômes avec le niveau requis?
Mais effectivement, c'est une véritable question de comment on permet à ces jeunes qui arrivent à l'université de réussir en première année. Olivier Beau parlait de boucherie en première année. Effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on met...
Ah, vous êtes d'accord.
Je vais permettre de finir ma phrase. Quand on met des jeunes bacheliers à 600 dans un amphithéâtre pour pouvoir suivre un cours, effectivement, je pense que pour pouvoir réussir, ça complique un petit peu les choses quand on ne sait pas forcément comment prendre un cours dans de bonnes conditions, réviser tout seul. Donc, je pense qu'effectivement, les conditions d'études qu'on offre aux étudiants quand ils arrivent à l'université, elles leur permettent pas de réussir. Mais du coup, la question, c'est encore une fois, est-ce que à ces jeunes-là, on leur dit non, vous n'avez pas votre place à l'université, donc on va trier à l'entrée de l'université, on va prendre le haut de la pile et puis le bas de la pile, on verra ce qu'ils deviendront un jour. Donc on leur dira que ils n'ont pas accès à un diplôme. Mais la question, c'est comment justement l'université permet de faire de la pédagogie, permet d'encadrer ces jeunes qui arrivent à l'université et leur permettre de réussir. Et donc par exemple, moi je pense que aujourd'hui, il y a des jeunes bacheliers qui sont les véritables laissés pour compte de l'enseignement supérieur, c'est les bacheliers professionnels et les bacheliers technologiques. Aujourd'hui, ces bacheliers-là, ils sont confrontés à la barrière sélective en BTS et en IUT, dans les filières où ils font leurs vœux prioritairement.
Oui, et c'est pour ça que certains terminent
à l'université.
À l'université,
à la fois, ils sont orientés souvent par défaut, et quand c'est une véritable volonté d'orientation, les universités se dédouanent toute responsabilité de pouvoir les faire réussir. Et donc, je pense que, par exemple, pour ces bacheliers-là, il faut qu'on arrive à créer un droit à la poursuite d'études en BTS, en IUT, dans les filières où ils veulent continuer leurs études, plus ensuite en licence professionnelle à l'université, pour pouvoir justement leur donner les conditions de réussite et d'avoir accès à un diplôme qualifiant au plus haut niveau où ils le souhaitent le faire. Toutes ces questions-là, on ne les aborde pas, et je pense que c'est important, et que la question, elle n'est
si,
pas...
Là, on les aborde,
non, mais Olivier Beau, on ne les abordait pas, en disant, il faut sélectionner, ce n'est pas le rôle de l'université, ce n'est pas sa responsabilité. Je pense que si, c'est la responsabilité de l'université de donner les moyens à des jeunes de pouvoir réussir dans des bonnes conditions et pas l'inverse.
Bon, et vous m'avez aussi offert une belle transition sur le thème de l'orientation. Donc Séverine Chauvel, je me tourne vers vous avec ces deux questions, mais on va le faire dans l'ordre. D'abord sur la pédagogie, ensuite sur l'orientation, sur un manque de savoir-faire pédagogique peut-être. C'est une hypothèse, pour former des lycéens qui sont peu aguerris, ne sont pas d'ailleurs aguerris aux méthodes de l'université, à l'autonomie qu'exigent les apprentissages au sein des facultés finalement qui sont un petit peu laissés de côté et avec une sélection qui se fait par l'échec.
Oui, alors on a rappelé effectivement alors l'échec, c'est... Il faudrait suivre les parcours en fait sur le long terme hein, de ces étudiants, c'est-à-dire que il y a des réorientations aussi à la fin de la première année et ça signifie pas forcément l'échec. Ça pose des questions plus fondamentales de qu'est-ce que réussir. Mais un des rôles effectivement importants à jouer pour nous hein, enseignants, c'est enseignantes, c'est de pouvoir former les étudiants et ces savoirs de base d'écrire, lire, qui sont vraiment important. Alors sur, est-ce que votre question, est-ce que la pédagogie, enfin, on n'a pas toujours les savoir-faire. Moi, je reviens aux questions de conditions, aux conditions matériel. Et à l'offre de formation, bien sûr. C'est-à-dire que il faut prendre le parcours dans son ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé avant pour l'étudiant qui arrive, l'étudiante qui arrive en première année? En fait, selon l'établissement, selon son quartier, selon son lycée, il n'a pas eu le même nombre d'heures de français, de mathématiques.
Bah, il n'a pas eu les enseignants. CNESCO,
voilà,
on a parlé
exactement. Il n'a pas eu le même les enseignants aussi bien formés. Et donc, on sait que les lycéens professionnels sont sous-dotés, connaissent le plus d'enseignants qui sont moins formés, etc., plus précarisés. Donc c'est ça, à mon sens, qui fait la différence.
Et concernant l'orientation, on a vu qu'un rapport de suivi de la loi Fioraso et la ministre aussi, c'est ce qu'a dit Najat Vallaud-Belkacem en début d'année, j'en viens au fait. Aujourd'hui, il faudrait procéder à une orientation plus intelligente, plus prescriptive, c'est-à-dire réfléchir plus longuement, informer davantage les étudiants pour aboutir à des solutions plus efficaces. C'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui, l'orientation intelligente. Et est-ce que l'orientation prescriptive, c'est un peu être assez, fort dans le conseil et influencer les jeunes, c'est ça que l'université devrait arriver à faire?
Alors derrière la question de l'orientation, il y a celle de l'autonomie. Il y a une injonction à l'autonomie en fait qui est paradoxale, c'est-à-dire que vous devez être autonome. Donc c'est ce qu'on demande, on doit fabriquer son propre parcours. Et là, en fait, il y a des inégalités. L'information ne suffit pas, puisqu'en fait, on ne se saisit pas de l'information de la même manière selon son origine sociale. Ça, c'est les sociologues l'ont bien montré. Et puis, j'en reparle dans le livre. Donc, je pense qu'il faut vraiment donner les outils, en fait, avant tout aux étudiants pour qu'ils puissent se saisir, de leur parcours. Et ne pas les laisser.
Mais comment? Parce que l'information ne suffit pas. Alors, en plus d'informer les étudiants, que faire?
Et ben, j'en reviens à ce qu'on fait à l'école, au cœur de l'école, c'est-à-dire les apprentissages, les savoirs. Et c'est avec ce bagage-là fort que, en fait, la compétition pourra se faire peut-être à armes un peu plus égales.
Olivier Beau, sur la question de l'orientation, est-ce que vous souhaitez une orientation prescriptive?
Il est tout de bon sens que personne n'a voulu dire, c'est que l'orientation, elle doit se faire en fonction des mérites scolaires, c'est quand même la base.
Alors attendez, on ne vous entend pas très bien, peut-être peut-on procéder à quelques réglages. Lila Lebas, sur cette orientation prescriptive, en un mot, avant de repasser la parole à Olivier Beau.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir un véritable service public de l'orientation pour permettre d'informer les jeunes dans les études qu'ils veulent faire. Enfin, le renforcer, puisque aujourd'hui, on sait bien, il y a plein de choses qui existent, mais qui ont besoin d'être renforcées pour que chaque jeune ait accès à l'information. Aujourd'hui, les conseillères d'orientation dans les lycées, on sait très bien que c'est très compliqué des fois de pouvoir avoir un rendez-vous quand on cherche à savoir dans quelle filière s'orienter. Donc ça existe, comme plein de choses, mais par contre, je pense qu'il est nécessaire de devoir le renforcer et surtout de ne pas faire de l'orientation à défaut pour les étudiants, d'obliger une orientation, puisqu'on sait que c'est la première cause d'échec aussi. Comment, quand on est jeune, quand on a 17 ans, qu'on nous dit non, tu n'iras pas dans cette filière-là, mais dans celle-là, ça donne envie de réussir quand on est à l'université dans une filière que l'on n'a pas choisie, qui ne correspond pas à notre projet professionnel. Je pense que ça, ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre. Par contre, c'est juste garantir à chaque jeune de pouvoir avoir les informations qu'il souhaite avoir avant de pouvoir s'orienter avec des conseillers d'orientation dans chaque lycée, des rendez-vous qui peuvent être pris, etc. Et pas du tout dédouaner et empêcher les étudiants d'aller dans les filières de leur choix, puisque c'est ça un gage de réussite.
Séverine Cheval, en un mot?
Oui, en un mot, en fait, c'est maintenant aux enseignants des collèges de faire l'orientation. Et on se rend compte, puisque cette profession de conseiller d'orientation est en voie de disparition. Donc, et qu'est-ce qui compte dans le premier palier de l'orientation, ce qu'on appelle le premier palier officiel en fait, mais le collège n'est pas aussi unique qu'on le croit, à la fin de la troisième, c'est l'offre locale de formation. En fait, ça dépend, je parlais tout à l'heure des flux et de la démographie scolaire, c'est l'offre qui va déterminer en fait là où les élèves vont continuer leur parcours. Donc il faut peut-être réfléchir aussi à ce qu'on offre localement à ces élèves et à ces étudiants.
Olivier Beau, sur l'orientation,
Alors, sur l'orientation, je pense que d'abord, il y a un slogan à déconstruire, c'est le slogan de l'UNEF, le droit à poursuivre des études. Bien sûr, on peut dire toujours qu'il y a un droit à poursuivre des études, mais dans tous les pays du monde, on poursuit des études en fonction de ses compétences scolaires et pas sociales. Il y a une question de savoir de capacité scolaire qu'il faut reconnaître, et donc il est évident que c'est à l'université ou aux universitaires de pouvoir déterminer son public en fonction des compétences scolaires, ce qui ne veut pas dire malthusianisme. Ça veut dire tout simplement que les étudiants qui sont les moins qualifiés doivent passer une année de SAS après le baccalauréat pour tout simplement se remettre à niveau et pas pour entrer dans le monde universitaire aussi désarmé. Donc il n'y a pas l'idée d'une sélection qui veut dire élimination de prix, ça veut dire tout simplement adapter la formation aux capacités scolaires. Et apparemment c'est un grand mot que de dire capacité scolaire, mais c'est ça. Le bac professionnel n'a pas été fait pour envoyer des étudiants en licence de sociologie, en licence de droit ou en licence générale. C'est pas du tout le cas. Et on arrive à ce résultat complètement absurde. Mmh. Arriver à envoyer des étudiants qui n'ont pas la maîtrise suffisante du français pour faire des études.
Et dont on a compris que ce n'était pas forcément le choix non plus, puisque ça peut être une orientation par défaut, sachant que les filières que demandent les bacheliers pro, BTS ou autres, peuvent être totalement remplies par des bacheliers de lycée général, de filière générale.
Pour eux, on accepte effectivement que dans le système sélectif, il reste sélectif. Par contre, l'université, bien, c'est la voiture balai, c'est le parti. On met tous ceux qui n'ont pas pu aller ailleurs. C'est-à-dire qu'on prend aussi les moins bons, ce qui est un coût pour la nation. Parce que l'université française n'est pas au niveau par rapport aux universités étrangères.
Séverine Chauvel,
oui, je suis pas du tout d'accord avec cette expression, hein, voiture balai, université voiture balai, puisque en fait, c'est pas le cas. En fait, il faut regarder un petit peu les études qui sont produites sur les étudiants. En fait, il y a vraiment des spécialités, des formations qui sont extrêmement recherchées et qui sont très appréciées. Enfin, on peut pas comme ça parler de l'université en général sans considérer
le paysage. Et contrasté. Mais sur l'image de l'université, le fait que même des bac plus 4, bac plus 5, moi j'aime bien encore parler comme ça, ne trouvent pas leur place sur le marché du travail, pour utiliser encore cette expression, sur le fait que les doctorants, et ils se battent pour une meilleure reconnaissance de leur diplôme, et beaucoup de mal aussi à s'intégrer, par exemple, dans les entreprises privées, c'est un diplôme assez peu reconnu, alors que ce sont tout de même des études très longues. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire, malgré tout, en France, une image relativement dégradée des universités ? Alors peut-être pas toutes, mais le combat des doctorants décrit aussi cette réalité d'une image un peu dégradée.
Oui, bah les doctorantes ont raison, hein, de demander une reconnaissance de ce diplôme. En fait, il y a eu des choses qui ont permis un petit peu d'avancer. Puisque
par
c'est
exemple
bah sur des un encadrement en fait et une limitation des années de doctorat en fait. Après
sur l'image de l'université.
L'image de l'université, ça serait une université qui serait trop théorique, trop académique, trop déconnectée, mais c'est je pense que c'est parce qu'on va dans le sens d'une rentabilité en fait des diplômes. Est-ce que ça ne sert que à être rentable sur le marché du travail, sachant que les difficultés que connaît aujourd'hui ce marché.
On en revient à cette idée. François Taddeï, puisque vous êtes arrivé dans le studio, et même si c'est pour la dernière partie, et vous aussi, vous êtes un chercheur, un universitaire, j'ai envie de vous faire réagir sur cette question. Aujourd'hui, dans cette course au diplôme, pour reprendre la formule de Séverine Chauvel, il y a des perdants dont les diplômes ne vont pas être bien reconnus, et une université qui forme aussi des gens qui sont identifiés comme des perdants dans une société. Est-ce que ça ne dégrade pas la vision que nous avons de l'université, l'enseignement supérieur?
Au niveau international, l'université et ses diplômes, en particulier le doctorat, sont ce qu'il y a de plus recherché. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre les causes qui font qu'en France, c'est pas forcément comme ça, et qu'est-ce qui peut être fait pour inverser cette tendance. Hein, ce qui fait la force des plus grandes universités mondiales, c'est que les chercheurs sont au contact des enseignants et que les étudiants peuvent apprendre par la recherche et donc créer des projets dès qu'ils arrivent à l'université, dès le premier cycle. Et donc on peut tout à fait inverser cette logique et mettre les étudiants en position de recherche, en position de projet qui correspondent beaucoup mieux à leurs envies, ça les motivera plus et on peut les accompagner, leur faire apprendre tout un tas de choses et y compris ceux qui manquent d'une partie des outils dont on a parlé dans l'émission peuvent, dans le cadre d'un projet, trouver la motivation qui peut leur manquer lorsqu'on essaye de leur transmettre des savoirs trop académiques par rapport à leurs aspirations.
Alors, la pédagogie de projet au secours de l'université, on vous a laissé le mot de la fin. On va vous écouter sur un tout autre sujet, pardon, François Tadé. Je remercie Séverine Chauvel, Lila Loba et Olivier Beau pour ce débat. Je crois qu'on n'a pas tout à fait le tour de la question. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Allez, dernière séquence de l'émission.
Tu programmes l'instant exact où tu veux aller sur ce clavier. Disons que tu as envie de voir la signature de la déclaration d'indépendance. Regarde. Ou alors d'assister à la naissance du Christ. Et vraiment date essentielle dans l'histoire de la science, le 5 novembre 1955.
La science peut-elle venir au secours de l'école, la recherche en pédagogie? On a pris un petit son pour s'amuser, de retour vers le futur. Là, on revient au présent avec vous, François Tadé. Vous êtes le patron du Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris, le CRI, on vous a déjà invité pour en parler. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une toute nouvelle mission pour l'innovation pédagogique. Vous venez d'être nommé par la ministre de l'Éducation. Quoi de neuf dans l'innovation pédagogique au CNIRIP, c'est ce conseil national, on en a parlé en début d'émission. L'innovation pédagogique, on la ressort périodiquement au ministère de l'Éducation comme une solution. Qu'allez-vous apporter de neuf?
On m'a demandé de travailler non seulement sur l'innovation, mais aussi sur la recherche, ce qui n'est pas exactement
recherche-développement.
Recherche-développement. Et on m'a proposé d'intégrer une dimension plus large que celle qu'on a l'habitude de prendre, qui est de réfléchir sur apprendre, au moins autant que sur éduquer, et apprendre sur tout au long de la vie, ce qui permet de dépasser un petit peu le cadre habituel, qui est le cadre scolaire pour l'essentiel de la recherche en sciences de l'éducation, par exemple. Donc, apprendre tout au long de la vie, c'est... Ça commence dès la naissance, voire même avant, puisqu'on peut in utero montrer que les bébés ont entendu leur langue maternelle, par exemple. Et en fait, on apprend tous dans des contextes extraordinairement différents. Je sais pas la dernière fois que vous êtes allé dans une école et la dernière fois que vous avez appris quelque chose, mais a priori, c'était pas forcément complètement simultané. Et donc, on voit bien qu'on peut apprendre dans énormément de contextes, énormément d'environnements et à tous les âges. Et donc, rechercher sur l'apprendre, ça n'est pas simplement rechercher sur la pédagogie, même si ça inclut, bien sûr, cette noble mission qui est rechercher sur la pédagogie. Mais ça peut peut-être nous aider à trouver d'autres sources d'inspiration, puisqu'on peut apprendre dans d'autres contextes, et par exemple le numérique nous a permis à tous d'apprendre dans d'autres contextes aujourd'hui, et ça peut contribuer à accompagner d'autres perspectives.
D'autres perspectives, et pourtant quand on s'intéresse à l'innovation pédagogique comme je le fais, on voit que les théories dont on parle aujourd'hui, voyez le succès d'une Céline Alvarez qui parle de la pédagogie Montessori, et rien de très neuf. On va fêter cette année, enfin on ne la fête pas, on commémore, pardon, les 50 ans de la disparition de Célestin Freinet. Là aussi, c'est une vieille pédagogie qui a peut-être de l'avenir. Et on voit que les enseignants, quand ils essayent d'innover pédagogiquement, se retrouvent souvent à recycler des choses qu'on connaît déjà. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on ne connaît pas, des pédagogies, d'une manière d'apprendre dont on n'a pas idée et qui pourrait apporter des solutions pour l'école, puisque là est bien le sujet?
Je vais prendre peut-être des contextes dans d'autres disciplines. La médecine, depuis Montessori et avant, a progressé énormément. Vous savez que Montessori était médecin, en plus une grande pédagogue. Donc on ne traite pas les patients comme on les traitait du temps de Maria Montessori. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce que la médecine a progressé autant et pourquoi est-ce que les méthodes pédagogiques, on revient à parler d'une partie de ce qui a fonctionné déjà à cette époque-là. Je pense que ce qui se passe, c'est que dans le budget de la nation, 2,24% du budget total est dépensé pour faire de la recherche et du développement dans l'ensemble des secteurs d'activité, dont la médecine, le transport, l'énergie, etc. Et la défense nationale, par exemple, ont investi beaucoup d'argent sur ces sujets. Tant qu'on n'investira pas des montants suffisants dans le domaine de l'apprendre et de l'apprendre tout au long de la vie, on aura du mal.
Alors on ne trouve pas parce qu'on n'a pas assez cherché, en vrai.
Je pense qu'on n'a pas suffisamment intégré de disciplines, suffisamment intégré des savoirs venant d'autres mondes. Par exemple, le numérique, c'est une évidence que ça transforme notre société. En quoi est-ce que le numérique peut changer l'éducation ou pas? En quoi est-ce que les sciences cognitives peuvent changer les choses? La biologie moléculaire et l'épidémiologie ont fait progresser la médecine. Il n'y a pas de raison que les sciences cognitives, les neurosciences et les learning analytics, les statistiques sur comment est-ce qu'on apprend, qu'on peut obtenir via les outils numériques, ne puissent pas nous permettre d'avoir une pédagogie qui, par exemple, serait beaucoup plus adaptée à chaque enfant. Parce que peut-être que Freinet, c'est très bien pour certains, peut-être pas forcément idéal pour d'autres, j'en sais rien. Mais tant qu'on n'a pas fait des analyses suffisamment quantitatives, on ne traite pas tous les patients avec de l'aspirine aujourd'hui ou avec une saignée. Alors qu'il fut un temps où on proposait une saignée à tous ceux qui n'allaient pas très bien.
Mais la pédagogie, est-ce une science ou est-ce un art? Parce que habituellement, on dit que c'est un art.
Mais la médecine aussi est un art. Et c'est un dialogue singulier entre le médecin et son patient, mais ce dialogue singulier est enrichi par des sciences comme la génétique ou l'épidémiologie qui aident le médecin à regarder son patient à la fois avec toute l'humanité nécessaire, mais également informé de connaissances scientifiques qui l'aident à être plus pertinent et à poser un diagnostic et à proposer une thérapeutique qui sont plus adaptées.
Une question que je me pose très sincèrement, François Taddeï, c'est comment faire le lien entre cette recherche-développement, hein, dont vous allez dessiner les contours pour le ministère de l'Éducation, et les enseignants eux-mêmes, puisque finalement, les enseignants, tout occupés qu'ils sont à leur tâche, difficiles, n'ont pas forcément ni le réflexe, ni n'en ressentent peut-être le besoin de consulter les résultats de cette recherche.
Mais je pense qu'il y a un siècle, les médecins ne pensaient pas recherche non plus. Et aujourd'hui, dans leur formation initiale comme dans leur formation continue, on les accompagne pour comprendre quels sont les derniers états de la recherche et en quoi est-ce que ça peut influencer la manière dont ils vont traiter leurs patients. Donc c'est un problème de formation initiale, de formation continue, mais aussi d'implication, que ce soit des médecins dans la recherche biomédicale ou des enseignants dans la recherche sur les nouvelles manières d'apprendre. Et donc s'il y avait 2,24% du temps des enseignants consacrés à la recherche, à faire qu'ils puissent se former et qu'ils puissent être formés par la recherche et qu'ils puissent contribuer eux-mêmes à dire que les intuitions qu'ils développent dans leur classe peuvent éventuellement discuter avec d'autres enseignants ou avec des chercheurs issus de différentes spécialités qui peuvent les aider à améliorer encore leurs intuitions et à éventuellement réfléchir à ce qui peut être transmis dans une autre classe, alors il est tout à fait possible de rentrer dans ce qu'on appelle depuis au moins Newton gravir des épaules de géant, c'est-à-dire la capacité à ce que quand un enseignant a su innover, un autre enseignant va pouvoir le faire. Quand un médecin fait une découverte sur une nouvelle thérapie pour un patient, aujourd'hui, un autre médecin va pouvoir bénéficier de ce progrès. Donc je pense que c'est pas que la médecine et l'école soient rigoureusement identiques, mais il n'y a pas de raison qu'on n'adapte pas des pratiques et qu'on ne réfléchisse pas à ce qui pourrait être fait dans ce sens.
Alors oui, la comparaison a sûrement ses limites et on verra les réactions des auditeurs ensemble, si vous voulez, François Taddeï. Ce que je vois en observant les débats sur l'éducation, c'est que l'opinion y est extraordinairement présente. Finalement, les gens qui prennent la parole sur les paliers de l'orientation, à savoir plus tôt ou plus tard, défendent aussi des opinions qui sont politiques, qui reposent sur des visions de la société et qui ne sont pas forcément étayées par des preuves scientifiques. On a entendu Nathalie Mons en tout début d'émission dire que faire de l'orientation plus tôt et sélectionner plus tôt était un contresens au regard de nos connaissances scientifiques. Je lui laisse la paternité ou maternité de cette idée. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas un problème de culture en France, et ce n'est pas des enseignants dont je parle, mais de toute la société, de culture scientifique sur l'éducation où l'opinion finalement domine?
Tout à fait, je pense qu'en médecine, on n'accepterait plus les opinions, même s'il y a encore quelques remèdes de grand-mère qui peuvent être conseillés de ci, de là, et qui des fois marchent très bien. Donc il peut y avoir des choses raisonnables dans les intuitions des gens, mais si elles ne sont pas étayées par des preuves scientifiques, on ne peut pas différencier entre deux opinions raisonnables facilement, et donc pour le coup, on s'écharpe sur des arguments politiques, alors que je pense que plus on saura appuyer nos raisonnements sur une argumentation scientifique, typiquement fondée, plus on fera progresser l'ensemble des élèves et l'ensemble du système éducatif, et encore une fois, à tous les âges de la vie.
Bon, on va suivre vos travaux avec un rapport d'étape prévu pour la fin de l'année, c'est ça?
Oui, et le rapport final rendu en mars, et l'idée étant de réfléchir à comment est-ce qu'on peut progresser sur aussi ce qui se passera dans le supérieur, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, et sur la formation continue.
Merci François Taddeï. J'ai parlé de Célestin Freiné. Apparaître le 6 octobre une anthologie des textes du célèbre pédagogue intitulée Le Maître insurgé, publié chez Libertalia. La semaine prochaine, on passe à un tout autre sujet. Nous parlerons des langues antiques avec entre autres le linguiste Alain Ré, rue des écoles, attaché de production Laurence Genepin-Somanina à la réalisation, à la technique aujourd'hui Jean-Frédéric Sépieric Monsigny. N'oubliez pas le podcast et pour écouter et consulter nos anciennes émissions, la page internet de Rue des Écoles sur franceculture.fr la semaine prochaine, je l'ai déjà dit. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.